Alors maintenant, parlons du disque. Le disque vient de sortir, et bien le titre, Un itinéraire 1966-2021, deux CD.
Oui. Alors finalement, je sors là de voir un ami et avec qui on va travailler. Tu en as la première, donc un troisième disque sur les cordes. Je vais avoir deux quatuors à cordes. Bon, il me dit c'est quand même un peu tard. Comme je dis, mais c'est un peu cucu-pampan, ridicule de dire ça, j'ai donné 50 ans de ma vie vraiment aux autres, c'est-à-dire l'itinéraire, le Festival d'Angers, mais j'ai pas envie d'en parler. Quand Maurice Loret m'a dit, bon, il y a un festival, là, tu prends la direction, en même temps que Strasbourg d'ailleurs. Strasbourg, c'était en 82. Alors, j'ai peut-être mal géré ma carrière, entre guillemets, de compositeur, je déteste ce mot, mais c'est vrai que j'ai été complètement passionné par ce parcours, ce voyage, en proposant les uns les autres. Alors, à l'itinéraire, forcément, on a promu combien ? 200, 300, 400, 500 compositeurs. Après le Festival d'Angers, qui avait quand même une sacrée notoriété, puis j'y ai boulonné, au fond, je me suis oublié. J'ai oublié le compositeur que j'étais. Tout, pourtant, en écrivant et en perdant mon contact. J'ai regardé l'autre jour la liste, j'avais noté ça, j'ai quand même eu 25 commandes depuis je sais plus quoi, 30 ans, 40 ans. Mais c'est un peu pour, non pas rattraper le temps perdu, mais pour, j'ai envie de te le dire, mais ça c'est un scoop, pour dire, le compositeur existe. Il s'est oublié. Et alors moi, ça m'a intéressé parce que finalement, d'abord, c'est pas une carte d'identité. C'est le lien avec ceux que j'aime, avec ceux que j'estime. Et c'est vrai que, bon, j'ai des retours. Écoute, Alain Bancard, 3 jours avant de mourir, m'a fait une lettre. Oh, il faudra d'ailleurs, je pense peut-être, mais je t'en reparlerai parce qu'on va se revoir maintenant. M'a fait une lettre. Tu nous fais voyager dans un jardin qui m'est familier. Et que j'aime. Non mais c'est sa dernière lettre peut-être qu'il m'a écrit. Oh, il faut que je la retrouve. Gilbert Ami, il y a 8 jours. C'est pas avoir la satisfaction du travail bien fait. Les gars chez Renault, il faut pas qu'ils ratent leur truc parce que la voiture elle se casse la figure. mais c'est très curieux. Mais là, je suis obligé un petit peu de parler confidentiellement de moi. J'ai toujours eu une sorte de détachement de qui j'étais. Et en même temps, ayant la conviction que ce que j'écrivais n'était pas quand même tout à fait anodin ou banal. Parce que c'est au fond, c'est condenser ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et avec l'appui, l'estime des musiciens. Alors, il y a un musicien qui est nouvellement arrivé dans ma vie depuis 10 ans, c'est François Veillant, un flûtiste, qui est complètement fou de la musique de Tessier. Et il me dit, Roger Tessier, voilà comment il m'appelle, il faut absolument que vous laissiez une trace, des traces. D'ailleurs, il va mettre en route lui-même un disque sur mes pièces pour flûte. C'est lui qui a souhaité que cette pièce de 1966, qui avait été créée à l'époque, mais tu es trop jeune, à l'école normale, il y avait le club des Amis des Arts et des Lettres, un certain Jean Micot, elle avait été créée là. Je me souviens, il y avait une pièce d'Alain Bancard aussi. Moi, je l'avais complètement laissé tomber. Mais il me dit, elle est intéressante, cette formation, flûte, violon, piano. Bon, sinon, j'aurais plutôt commencé avec le trio à cordes, qui lui est une commande de Radio France et qui a fait son chemin. Donc, c'était un peu avant la période de l'itinéraire. C'est un jubilé, c'est 50 ans, mais bon, cette pièce existe, et on va jusqu'aux dernières, jusqu'à la pièce que j'ai écrite pour l'itinéraire, là, qu'ils ont créée au Conservatoire de Paris, dirigée par Louvier, la dernière pièce, j'ai plus le titre en tête, quoi. C'est vraiment un parcours, c'est vraiment un itinéraire, hein, un parcours.
Et en même temps, ce que je notais tout à l'heure, je disais, tiens, mais c'est quand même, sa musique n'est jamais processuelle. Alors qu'on peut rencontrer le processus, même chez Tristan, chez Gérard, qui le revendiquait même.
Je l'ai entendu hier.
Alors que chez toi, jamais. Ça m'a beaucoup intrigué parce que il est quand même fort parce qu'il fait partie du spectralisme.
Oui.
Alors, au moins les trois éléments, je dis la vague. Alors, je disais, il n'est pas processuel. En plus,
non.
Pas la vague,
non.
Pas la cloche comme référence.
Non.
C'est quand même incroyable.
Je vis...
Et en même temps, on l'entend. C'est ouais. ça qui est le paradoxe.
Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Je vais employer une autre expression. Il y a un camarade et ami, François Bouche, qui, tiens, on l'a oublié, lui aussi, il aurait dû être joué quand même. C'est quand même quelqu'un de tout à fait respectable et un des derniers élèves de Messiaen, prix de Rome. Alors, Bouche me dit, je suis fasciné par ta musique, je le parle, bon, il l'entendra peut-être, parce que on croit partir, et puis tu vas ailleurs. Et ça, c'est l'idée aussi de Michael, la rature. Là, on est vraiment dans un processus presque beethovenien. Mais, alors, restons un peu quand même concentrés. Il me dit, tu te promènes sur un chemin, tu ramasses un bout de bois ou un petit caillou, et puis tu vas le façonner. C'est un peu cette idée, mais ça, je l'ai prise auprès de quelqu'un que j'ai rencontré en 1968, quand j'ai eu une bourse pour aller au château de Lourmarin. C'est en 68, disons. J'ai rencontré Henri Bosco. On a passé un mois ensemble. Alors, il était en train d'écrire Le Récif, son dernier livre. Et c'était l'idée, au fond, l'idée du petit caillou. Et lui ajoutait, travaillez-le, façonnez-le, il deviendra magique. Quelque part, ça m'a marqué. J'avais 50 ans de moins, mais je suis resté fasciné par cette idée de l'objet qui est travaillé, contemplé, façonné et qui devient un autre. Alors au fond, je crois que c'est peut-être, mais tu me fais dire des choses que je n'ai jamais dites, je crois encore, c'est l'idée c'est un grand mot, la transformation, mais je disais la transmutation, tu vois, c'est l'idée de la transmutation. Donc, j'avais cet élément qui me permettait d'échapper probablement à la dialectique du processus ou du développement convenu. C'est l'idée, au fond, je reprends l'idée de Michael de la rature, parce que j'entends les autres parce que c'est difficile de parler de soi. J'ai l'impression que je me mets tout nu devant toi, mais l'idée de la bifurcation. Alors on est dans une formulation très Roland Barthes, bifur et fourmi.
Et en même temps, c'est avec l'œuvre qu'on va entendre, Vega, c'est la quête du lointain, du très très lointain.
Alors oui, alors c'est toujours l'idée du dépassement. C'est toujours. J'ai tout. Moins maintenant, mais à cette époque-là, j'avais 30 ans. L'idée du dépassement, à la fois physique, psychologique et instrumental. En confidence, je vais te dire que Vega, c'est pas forcément la pièce ou l'œuvre qui m'est la plus chère, parce que elle est un petit peu illustrative. Enfin, cette nuit encore, j'étais dans la Voie lactée, parce que je suis toujours intéressé par ce sujet. L'idée de la transformation d'un objet, depuis, on a beaucoup parlé du réel et du virtuel. J'ai même employé l'expression de son virtuel, je crois que c'est dans le deuxième ou le troisième quatuor, je mets son virtuel, c'est-à-dire que là, les musiciens jouent, mais ils ne jouent plus. Donc c'est à l'auditeur de prendre, de faire des notes. C'était dans le deuxième quatuor qui avait été fait par le quatuor Bella. C'est à la fois ce double CD, un parcours et au fond une synthèse quand même. Je l'ai envoyé à 150 ou 180, peu importe, et beaucoup de gens me disent, ah, de la première à la dernière, vous êtes là, ça c'est. C'est difficile hein, d'être fidèle avec soi-même. Tu vois, le rapport de l'écrit à soi-même, toujours quelque part, un mensonge. C'est ce qui fait peut-être le plus peur.
Dans une lumière, la manière de fonctionner entre les sons électroacoustiques, alors je me dis toujours que c'est électroacoustique, c'est une électroacoustique interparesse. par rapport aux instruments.
Tu prends le bon exemple pour moi de la métamorphose. J'aime plus trop employer le mot transmutation. Il a des connotations un peu bizarroïdes.
Un chimiste,
entre
autres.
Bon, j'ai été un adepte de Gilles de Rais pendant des années parce que il est de mon pays.
Ah, donc ça justifie.
Non, mais c'est vrai qu'il était, il était fascinant. Non, non, restons calmes, mais je l'ai réentendu cette pièce avant de partir là l'autre jour parce que j'écoute pas ma musique souvent. Et je me disais, l'idée. Alors, elle était dédicacée à un couple, Mania Anlauser, un couple qui a connu de Staël, qui a connu tous les grands peintres, une famille richissime. Je me suis inspiré d'un court texte de Paul Auster sur la métamorphose de la lumière. Alors, il faudrait que je développe maintenant peut-être un peu dans le détail les thèmes principaux, le miroir, la lumière, il faudra que j'écrive peut-être un peu. Mais cette pièce me semble intéressante justement par cette alliance, ce mariage entre des sons, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait dire des sons humains, des sons acoustiques et des sons extra-humains, électro-acoustiques. C'est idiot ce que je dis, mais n'empêche que on arrive à trouver, à un moment donné, on est dans de l'électronique pure. C'est ça qui me. Alors là, c'est pour moi, c'est l'idée de la. J'ose plus trop le dire. On transmute, hein, d'une espèce dans une autre, quoi. Ça me fascine complètement.
Paradoxe souvent de l'électronique, c'est un objet extérieur. Alors
Ben oui! Il est pas assez. Ben oui, même si c'est l'homme qui le pense.
il se détache. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, et ça, on l'a aussi beaucoup chez Murail,
Oui.
c'est de faire cette espèce cette électronique interparaisse. Elle devient instrumentale.
On est dans dans ce qu'on appelle la synthèse sonore.
Oui, et donc là, dans notre perception à nous,
Oui.
il y a des moments où, eh ben oui, il y a un effet de confusion, je dirais,
Oui, alors
de trouble dans notre
c'est
perception du
très
temps.
juste. De confusion, de trouble, et puis tu fausses les perspectives. Là aussi, il y a le mot instable. Les instabilités dont parlent certains rhéteurs ou théoriciens. Je n'ai pas pu écrire une autre musique que celle-là parce que elle provient, et là c'est encore une confidence, elle provient probablement de ma première éducation, de l'éducation de ma première enfance, nantais d'origine, hyper, hyper religieux et catholique, comme l'était la Vendée au sortir de la guerre et même bien avant. Donc cette idée de l'autre, de devenir l'autre. Devenir l'autre.
Et en même temps, elle me fait penser, ça me vient comme ça, souvent quand j'écoutais la musique et la musique d'orchestre du 19e, quand il y a le moment où on voit le hautbois fusionner avec la flûte.
Oui,
Et c'est quelque chose qui.
ça m'a marqué, ça, oui. Ouais.
Et c'est troublant. Et
Ah
c'est
oui.
troublant parce que brutalement, on perd notre lecture identitaire de l'orchestre.
Tout à fait.
Et alors, si on a la clarinette qui vient se goupiller quelque part, on ne sait plus bien qui est
Ben,
qui.
tu sais. Tu viens de dire en mots simples, au fond, ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est ça. Par addition ou par soustraction. Mais c'est ça, en fait, oui. Moi, je ne suis pas suffisamment scientifique, comme mes collègues, pour parler un langage scientifique.
Non, mais c'est aussi parce qu'on peut dire aussi qu'on a, dans notre histoire, le holos, on ne l'avait jamais entendu. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'était? Et donc, on avait des expériences de lecture. Mais on se posait la question, mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est une pure invention, presque du discours, ou est-ce que c'est une réalité du point de vue du sonore? Et donc, on a besoin de se le représenter. Et on sait bien que dans notre panoplie d'instruments, aucun ne répondait à la question.
Non.
Mais ça ne pouvait fonctionner que par addition ou soustraction, par des jeux d'alliage. Et on voit bien que les compositeurs, on se met comme ça à inventer l'orchestration, ce qu'on peut appeler l'orchestration.
Exactement. Et c'est très significatif. Reprenons ce que tu disais avec justesse et sensibilité. Pardonne-moi du compliment. L'œuvre de Dufour, c'est le dire, je connais bien l'œuvre de Dufour, bon, presque tout, mais l'œuvre de Dufour est justement dans cette idée de la prémonition de l'orchestre de demain. Parce que il est aux franges, ou au mi-temps, ou aux limites, entre l'instrument traditionnel, l'orchestre traditionnel, et l'orchestre de demain avec ses nouveaux outils et ses nouvelles perspectives sonores. Là, je pense qu'il y a une relation aussi forte avec la peinture. Alors lui, évidemment, lui travaille avec les peintres depuis 30 ans. Depuis 30 ans, avec mon épouse, on est complètement immergé dans la peinture. On est devenu, on a même une galerie dans le sud-ouest, tu y viendras. Mais je pense que Debussy disait, je n'écris pas ma musique pour maintenant, tu connais, mais pour mes petits-enfants. Et là, j'ai ressenti hier, je connais Surgir par cœur, je connais bien ses œuvres et tout, que j'aime. Mais hier, j'ai dit là, il ouvre une porte. Il ouvre une porte parce que c'est peut-être le façonnage d'une nouvelle sensibilité. Bon, voilà.
Alors on va s'arrêter là, hein.
Oui.